Il est 7h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Troisième et dernier débat pour la Maison-Blanche, une nouvelle fois houleux cette nuit aux États-Unis. Donald Trump est l'homme le plus dangereux à avoir jamais voulu devenir président. Le républicain qui réplique à sa rivale démocrate qu'il ne reconnaîtra peut-être pas les résultats de l'élection du 8 novembre. Compte rendu de ce débat dans ce journal. Les États-Unis engagés dans la bataille de Mossoul en Irak, stratégie à côté de la plaque selon le chercheur Jean-Pierre Filu. Vous l'entendrez. En France, les policiers ont une nouvelle fois bravé leur devoir de réserve pour manifester un peu partout dans l'Hexagone cette nuit encore. Et puis Cécile Duflot a été éliminée de la primaire écolo. Yannick Jadot et Michel Rivasi, députés européens, sont qualifiés pour le second tour. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera le procès du gouvernement nigérian contre les grands groupes pétroliers, notamment le français Total. 7h15, la question du jour, la Belgique a-t-elle retrouvé une stabilité politique? Réponse depuis Bruxelles, où vous vous trouvez Guillaume Erner ainsi que l'équipe des matins à l'occasion d'un sommet européen aujourd'hui et demain, le Brexit, la politique commerciale de l'Union européenne, quelques-uns des thèmes abordés à partir de 7h40 avec vos invités. Il se posait déjà en candidat anti-système, hors de la classe politique bien établie. Désormais, c'est avec la tradition démocratique américaine que Donald Trump a choisi de rompre cette nuit pour le troisième et dernier débat télévisé avec sa principale adversaire, la démocrate Hillary Clinton. Le candidat républicain a refusé de s'engager à accepter les résultats de l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Audience médusée, débat suivi à Las Vegas par notre correspondant Frédéric Carbone.
À la fin du premier débat, Donald Trump expliquait que s'il perdait le 8 novembre, il reconnaîtrait sa défaite et il soutiendrait même Hillary Clinton. La nuit dernière, à 20 jours du scrutin, répondant à la même question, le candidat républicain n'en est plus du tout là. Je regarderai cela en son temps, je maintiens le suspense. Donald Trump continue donc à agiter le spectre d'une élection truquée, et notamment, dit-il, parce qu'Hillary Clinton, la criminelle, n'aurait jamais dû avoir le droit de se présenter. C'est la grille de lecture de tout ce débat, la détestation personnelle, l'invective, et du côté d'Hillary Clinton, le sarcasme pour répondre à son adversaire. Il y a même eu un moment où il criait à la fraude, quand son émission de télévision n'était pas récompensée. Elle aurait dû l'être, ne peut pas s'empêcher de commenter Donald Trump. Le candidat républicain a toutefois évité de tomber dans tous les pièges, comme au premier débat, mais il n'y a pas de quoi changer le cours de cette campagne. Les deux candidats peuvent repartir comme ils sont arrivés sans se serrer la main, persuadés pour l'une que son rival n'est pas digne d'être président, et pour l'autre, que son adversaire n'a pas le droit de le battre.
Frédéric Carbone à Las Vegas pour France Culture. Donald Trump et Hillary Clinton, qui se sont également écharpés sur d'autres sujets comme l'offensive menée à Mossoul en Irak. Le milliardaire a déploré la décision soutenue par Hillary Clinton d'intervenir dans le pays en 2003. Maintenant, nous nous battons à nouveau pour prendre Mossoul, a-t-il déclaré. Quant à Hillary Clinton, elle a assuré qu'il ne serait pas malin d'envoyer des soldats américains en Irak, le but étant de reprendre Mossoul à Daesh et non de se positionner comme une force d'occupation. Les États-Unis, qui dirigent la coalition internationale anti-djihadiste en Irak dans la bataille de Mossoul, donc le dernier bastion du groupe État islamique dans le pays, Mossoul déjà déserté par les chefs djihadistes selon un général américain, possible repli vers Raqqa, l'autre capitale de Daesh, cette fois en Syrie, ce qui pourrait renforcer encore plus cette plaque centrale de la planification des attaques terroristes en Occident. Une erreur de stratégie des États-Unis, c'est l'analyse de Jean-Pierre Filu, professeur des universités à Sciences Po Paris.
Barack Obama veut partir sur un grand coup qui serait d'une offensive contre Daesh. Et on comprend mieux pourquoi l'Amérique d'Obama a fait preuve d'une telle passivité face à la mise à mort d'Alep par Poutine. Au fond, chacun veut se réserver une ville. Barack Obama s'en tient à sa priorité irakienne sans se rendre compte que le cœur de la planification terroriste est à Raqqa, en Syrie. C'est depuis Raqqa que les attentats ont été lancés dans le monde entier. Ils n'ont pas été planifiés depuis l'Irak. En Irak, Daesh est une guérilla. En Syrie, Daesh se déploie dans le monde entier, comme nous en avons tristement fait l'expérience.
Est-ce que la priorité donc aurait dû être toutes les forces sur Raqqa ?
Bien évidemment. Après la tragédie du 13 novembre 2015, je m'étais fait l'avocat d'une priorité absolue sur Raqqa, tête de la planification terroriste. Et c'est ça ce qui m'inquiète le plus.
Le chercheur Jean-Pierre Filu, joint par Claude Guibal. Pendant que les États-Unis, à la tête de la coalition internationale anti-djihadiste, se concentraient sur Mossoul, la deuxième ville d'Irak, dont se rapprochent aujourd'hui les forces fédérales et kurdes irakiennes pour déloger les djihadistes du groupe État islamique, la Russie, elle, avait les yeux et les avions rivés sur Alep, en Syrie, après plus de 3 semaines d'offensives et de bombardements sans relâche. Une courte trêve humanitaire vient d'entrer en vigueur dans cette ville du nord de la Syrie, déjà préparée par une pause de 24 heures des raids aériens russo-syrien. Vladimir Poutine se dit prêt à prolonger cette trêve autant que possible, mais en fonction de la situation réelle sur le terrain. Précaution oratoire de taille du président russe. Il s'exprimait cette nuit à l'issue d'entretiens musclés à Berlin avec la chancelière Angela Merkel et le président François Hollande. On y revient dans le journal de 7h30. La situation à Alep, au cœur également d'une session informelle spéciale, aujourd'hui ce sera à l'Assemblée Générale des Nations Unies. La Syrie, le traité de libre-échange avec le Canada au menu d'un sommet européen, également aujourd'hui et demain à Bruxelles. La première ministre britannique, Theresa May, est attendue de pied ferme. Elle va pour la première fois devoir préciser devant le Conseil européen quelle sorte de Brexit elle souhaite pour son pays. Il n'y aura pas de négociation avant l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne. Ce sera début 2017, mais la France et l'Allemagne veulent déjà des clarifications. Paris et Berlin le répètent, si le Royaume-Uni ferme ses frontières et limite l'immigration intra-européenne, les Britanniques n'auront plus accès au marché unique. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
En théorie, pas de libre circulation des biens s'il n'y a pas de libre circulation des personnes. Mais Theresa May ne reculera pas. Les Britanniques ont voté, dit-elle, pour le contrôle des mouvements de population. La position ferme de la Première ministre inquiète même une partie des députés conservateurs. « Si nous permettons à l'idéologie de dicter les termes du Brexit, explique Nick Herbert, ce sera un choix économique douloureux. » Car c'est ce que montre la dernière étude réalisée par le ministère des Finances. Si le Royaume-Uni suit l'exemple de la Norvège, reste dans le marché unique mais met en place des barrières douanières, le produit intérieur brut risque de chuter de 4,5%. Et pour compenser la perte des échanges commerciaux avec l'Europe, il faudra augmenter de plus d'un tiers le montant des transactions réalisées avec les États-Unis, l'Asie et le Commonwealth. Derrière les positions de principe et face aux risques financiers, c'est donc un arrangement à l'amiable que pourrait proposer Theresa May. Selon des sources proches des instances européennes, le Royaume-Uni pourrait offrir de financer une partie des subventions allouées aux pays de l'Est.
En France, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont beau avoir reçu les syndicats de policiers. Hier, la fronde ne faiblit pas. Une centaine d'agents a manifesté à Nancy hier soir, une centaine d'autres à Toulouse, près de 300 policiers à Paris. Rassemblement en place de la République pour demander encore et toujours plus de moyens. Le reportage d'Abdelak El Idrissi.
Parmi les fonctionnaires, Denise, brassard de police orange en évidence, est venue dire son ras-le-bol. Elle vise notamment les responsables politiques.
Depuis des décennies, nos braves ministres, nos présidents nous pipotent depuis le début. Donc blablabla, là encore monsieur Cazeneuve, je suis désolé, mais blablabla, 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 on vous soutient, bah oui, ça nous fait une belle jambe. En attendant, on en est toujours au point mort.
Mais les syndicats de policiers aussi sont très critiqués.
Les syndicats sont plus occupés à se tirer dans les pattes qu'à autre chose. Il faut se comporter comme des adultes et ils aillent bosser un peu sur le terrain, là, les collègues.
Les policiers exigent des moyens humains et financiers supplémentaires pour assurer leur mission. En l'absence de réponse concrète et immédiate, Maël, policier en banlieue parisienne, promet la poursuite du mouvement.
On est là à Place de la République, demain on sera ailleurs, après-demain on sera ailleurs. Tant qu'il n'y a pas de concret, ben on continuera. Tous les jours, il y aura des rassemblements spontanés. On arrive très facilement, nous, à s'organiser en une, deux heures, à rassembler 500-600 policiers. Nous, tant qu'il n'y a pas du concret, eh ben on continuera et on ne s'essouffera pas.
Marchons, marchons.
Comme sur les Champs-Élysées lundi, le rassemblement a été ponctué par la Marseillaise. Certains passants étonnés ont demandé à des policiers s'ils étaient d'extrême droite. Une accusation jugée blessante par les fonctionnaires et qui viserait selon eux à discréditer le mouvement.
La colère des policiers, thème de campagne pour les politiques. Alain Juppé, Bruno Le Maire chez les Républicains ou encore David Rachline pour le Front National disent comprendre la colère exprimée sous les uniformes. Et à 7 mois de la présidentielle hier soir, Cécile Duflot a été éliminée dès le premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. La députée de Paris, ancienne présidente du parti, n'est arrivée que troisième avec 24% des voix. L'ancienne ministre a été battue par les eurodéputés Yannick Jadot, 35% des voix, et Michel Rivasi, 30%. Karim Adeli atteint, elle, presque 10% des suffrages. Sophie Delpont a suivi hier Yannick Jadot et Michel Rivasi, deux personnalités peu connues du grand public, mais qualifiées donc pour le second tour de cette primaire écolo.
Yannick Jadot a fait le pari de ne pas baratiner les Français, selon ses termes, en déclarant d'entrée que l'objectif n'était pas de gagner la présidentielle, mais l'après-présidentielle. Une stratégie payante pour l'eurodéputé opposant farouche au TAFTA et ancien directeur de campagne de Greenpeace.
Moi, je veux conquérir chaque électrice, chaque électeur. Je veux les convaincre que l'écologie va transformer leur vie en mieux. Mais je ne veux pas raconter de bobards sur l'élection présidentielle de 2017. En revanche, je me battrai bec et ongles pour qu'on ait des députés, pour qu'on ait des maires et pour que peut-être en 2022, on gagne cette élection présidentielle parce qu'on aura construit sur du solide.
À un peu moins de 6 points derrière lui, Michèle Rivasi, 63 ans, est elle aussi militante, issue du monde associatif.
Vous voyez, ça fait 30 ans que je me bagarre sur le terrain. Que ça soit sur la création de la CRIRAD au moment de l'accident de Tchernobyl pour dénoncer ce mensonge d'État, que ça soit sur la pollution électromagnétique, que ça soit en tant que directrice générale de Greenpeace. Et les gens, je pense, ont reconnu ce travail de terrain et le lien entre la politique et les associations.
Karima Deli arrive quatrième, mais elle n'est pas déçue.
Ah, pas du tout. Personne ne me connaissait. J'ai porté la voix de l'écologie populaire à 10% dans une campagne de moins d'un mois. Je suis assez contente.
Vous soutenez qui pour le second tour ?
Ah ! Vous dites ça parce qu'il y a un certain jeune homme qui est derrière moi.
Yannick Jadot.
Tu soutiens qui, alors, Karima ?
Attendez,
attention.
Je ferai un choix, bien entendu. Voilà, voilà.
Cécile Duflot, elle, a déjà tranché. Aucune consigne de vote au second tour. Grande absente hier soir après son élimination, la députée de Paris a préféré exprimer sa déception sur Facebook.
Un demi-succès pour la mission européenne ExoMars. Si la sonde mère TGO, renifleuse de gaz, a réussi sa mise en orbite, l'atterrisseur qui devait se poser sur la planète rouge, lui, semble perdu. La phase finale, les 6 minutes de terreur, comme disent la NASA, s'est interrompue au bout de 4 minutes. Schiaparelli est devenu muet avant que l'on ne sache s'il était parvenu sur le sol. Toute la nuit, les ingénieurs ont tenté de comprendre ce qui a pu se passer, Sophie Bécherel.
D'après les informations fournies hier soir, la phase finale de descente s'est correctement déroulée pendant 4 minutes. 4 minutes sur les 6 prévues. Ce serait au moment de l'ouverture du parachute, alors que Schiaparelli fonçait encore à 1700 km par heure vers le sol, que le signal a été perdu. Pourquoi ? Voici les hypothèses formulées par Francis Rocard du Centre National d'Études Spatiales.
Est-ce que c'est l'ouverture du parachute ? Est-ce que le parachute a été libéré mais resté en torche ? Est-ce que le parachute s'est déployé mais a explosé ? Parce que le choc du déploiement peut faire exploser le tissu. Il n'y a pas de raison de perdre le signal. Par contre, on descend très vite et ensuite on va s'écraser sur le sol.
À cause de cette vitesse trop grande, le module n'aurait pas survécu. 20 mégabits de données ont toutefois été recueillis et épluchés la nuit dernière pour reconstituer la chronologie. En attendant, ne parlons pas d'échec pour ExoMars, dit Olivier de Goursac de la Planetary Society.
Il ne faut jamais perdre espoir. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que Mars est une planète compliquée. Et les ingénieurs font toujours tout ce qu'ils peuvent. Ce qu'il faut, c'est quand même déjà féliciter les ingénieurs au moins d'y être arrivés à faire quelque chose, une manip, et l'attirer vers Mars.
De fait, l'autre partie de la mission, l'orbiteur renifleur de gaz, a réussi sa mise en orbite hier. C'est sur lui qu'on compte pour donner l'origine biologique ou géologique du méthane et donc la possibilité de vie sur Mars. Mais il faudra être patient. Les mesures ne commenceront que l'an prochain, une fois qu'il sera stabilisé autour de la planète rouge.
Le temps de ce jeudi 20 octobre, instable sur la moitié nord du pays, ensoleillé dans le sud, au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 15 degrés sur une grande partie du pays, jusqu'à 17 sur le littoral atlantique et jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée